culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. C'est un plaisir de te retrouver pour vivre ce temps de culte ensemble. Alors avec moi comme chroniqueur aujourd'hui, Briand, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et notre invité pour deux cultes, Pierre Péchou, bonjour, bienvenue.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Pierre, faut tout de même qu'on explique à l'auditeur ce qui se cache derrière ta venue. Nous avions normalement Dominique Fricart qui avait préparé deux cultes avec nous et pour des raisons personnelles n'a finalement plus pu venir. Et Pierre, tu as accepté quasi au pied levé, cinq jours avant ce premier culte, de reprendre les thématiques que nous avions choisies pour ces cultes, de les faire tiennes pour nous proposer quelque chose de personnel qui te correspond et qui fait en même temps écho au travail de préparation de nous, les chroniqueurs. Alors j'ai tendance à penser que Dieu fait bien les choses et je suis convaincue qu'il t'a inspiré pour que tu acceptes ce challenge et t'a inspiré aussi dans ce que tu vas nous partager. Alors merci infiniment d'être là, sois vraiment le bienvenu. Et alors pourrais-tu te présenter en quelques mots?
Oui, alors d'abord merci aussi pour la proposition, c'est un plaisir, un vrai plaisir d'être avec vous. Je suis pasteur depuis une vingtaine d'années. J'étais surtout dans le sud de la France, aussi missionnaire en famille en Algérie pendant 5 ans. Je viens de passer 11 ans à Marseille et puis depuis la rentrée, je suis en Haute-Savoie et j'ai 3 communautés, Gex, le bassin gessois, Saint-Julien et Collonges-sous-Salève.
Donc on a le plaisir du coup de t'avoir maintenant parmi nous, donc c'est chouette que tu aies accepté cet appel finalement en Haute-Savoie aussi.
Et quelque chose, pas important mais... Je le dis pour tout à l'heure, je suis marié donc, et j'ai deux filles qui ont 23 et même 24 et 22 et qui ont quitté la maison.
Ouh là là,
j'y reviendrai.
Très bien. Alors justement, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler?
Donc, le titre de cette méditation, c'est un passage biblique qui dit « Car un enfant nous est né ». Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Donc voilà, c'est un peu réfléchir autour de cette thématique.
Eh ben, je me réjouis de t'entendre et je prie pour que ce culte, tout ce que nous allons vivre ensemble, soit agréable à Dieu, qu'il puisse toucher nos cœurs déjà à nous et puis le cœur de nos auditeurs et de nos auditrices. Alors, pour introduire ce temps de culte, je t'invite à écouter un chant qui parle de ce qu'est Noël pour nous, les chrétiens.
Ce n'est pas une histoire ordinaire. Un enfant a bouleversé l'univers. C'est Dieu lui-même, sous forme humaine, venu parcourir la terre. Il aurait bien pu naître dans un palais entouré de richesses et de lumière, mais il préfère voir la misère pour nous dire je sais. Noël, Noël, c'est l'histoire éternelle d'un espoir qui s'éveille. Incroyable mystère, à jamais l'avenir étincelle.
Il est là, si frère.
fragile et si frêle, loin des rires et des merveilles du ciel. Il s'abandonne aux mains des hommes dans ce corps inhabituel.
Il savait bien qu'une croix l'attendait, qu'il serait humilié et rejeté.
Mais en ce jour, c'est par amour qui paye le prix de notre liberté. Noël, Noël, c'est l'histoire éternelle d'un espoir qui s'éveille.
Dieu vient vivre sur terre.
Noël, Noël, incroyable mystère, à jamais. L'histoire éternelle.
Dieu vient vivre sur terre.
Incroyable mystère.
À jamais l'avenir. Et en ce
Noël, Noël, c'est l'histoire éternelle d'un espoir.
Dieu vient vivre sur la terre.
Noël, Noël, incroyable mystère, à jamais l'avenir
est au
Dans cette chronique « Dieu dans ma semaine », j'aimerais te parler d'un court échange que j'ai eu avec le compagnon d'un couple d'amis. Ils font partie de notre groupe de maison, un groupe qui réunit des personnes qui croient en Dieu. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls adventistes avec Amandine. Et il y a quelques jours, on a échangé sur notre projet, sur ce que nous voulions vivre dans cette vie de groupe. Comment prendre en compte les agendas de chacun pour nous réunir? Quels espaces arriverions-nous à créer pour les enfants? Quel temps aurions-nous de vivre la prière, l'étude de la Bible, la louange, le repas, peut-être les goûters aussi?
Oui, oui, on aime beaucoup manger dans notre groupe.
Ouais. C'est un riche échange qui nous a vraiment fait du bien. Et pendant notre échange, notre ami nous avoue qu'il avait eu une semaine assez chargée et qu'avant de partir de chez lui, donc en arrivant chez nous, il se disait peut-être qu'il aurait bien voulu se reposer ou passer du temps à faire autre chose. Il n'était d'ailleurs pas loin d'annuler. Et cette intervention a débouché sur une discussion fort intéressante sur l'effort que l'on doit parfois faire pour venir à Dieu. Je pense que tu vois de quoi je peux parler. Par exemple, ce sont souvent ces pensées qui disent « Oh ben, aujourd'hui je me sens fatigué, je serais bien resté chez moi ». Ou j'ai pas la tête à ça, ou encore j'ai la flemme. Les excuses ne manquent pas. Et Amandine nous a donné l'exemple très connu des coupelles de champagne. Je pense que tu vois de quoi je vais parler. Tu sais, c'est une pyramide de coupelles ou de verres sur laquelle on déverse le contenu d'un champagne qui arrive d'abord sur le verre le plus haut pour ensuite découler dans les autres verres. Et quand tu donnes à Dieu la place du verre le plus haut, et que tu laisses Dieu te remplir, cela remplit tous les autres domaines de ta vie. Cette image nous a vraiment beaucoup parlé, notamment sur l'importance de la place de Dieu dans chacune de nos vies. Et quelques jours après notre réunion, notre ami nous envoie un SMS où il écrit un passage du livre d'Alain Anderset, « Rendez-vous en forêt ». Un page pris au hasard qui disait « Votre salut » et dans le retour à Dieu et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. » Et ben, je t'avoue que son message m'a fait beaucoup de bien, car il résume assez bien l'idée du retour, de faire cet effort pour que Dieu nous redonne des forces pour avancer. On l'a déjà évoqué à de multiples reprises dans nos cultes, l'importance de la place de Dieu dans nos vies. Mais pour ma part, j'ai besoin de ce rappel fréquent, car j'ai tendance à mettre Dieu sur le podium, deuxième ou troisième place, médaille d'argent ou médaille de bronze, mais en fait, je pense qu'il devrait vraiment être toujours en numéro 1. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, veux-tu vivre l'expérience de placer Dieu en numéro 1 ?
Alors, Brian, quelle promesse du jour souhaites-tu nous partager ?
Pour la promesse du jour, j'aimerais te lire un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, à partir du verset 20. Il dit « Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Promesse tenue par Dieu. Oui, Dieu ne dit pas des paroles en l'air. Ce qu'il dit, il l'accomplit.
Amen.
Le prophète dont il parle, c'est Ésaïe. Tu peux retrouver cette promesse dans le chapitre 7 et le verset 14 du livre d'Ésaïe, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Franchement, je trouve réconfortant de savoir que Dieu tient ses promesses. Ici, à travers la naissance de Jésus-Christ, et bientôt, avec son retour et la promesse de la vie éternelle.
Oui, je suis d'accord avec toi, Brian, c'est très réconfortant, en tout cas pour moi, de pouvoir m'appuyer sur les promesses de Dieu et de voir qu'elles s'accomplissent. Et je suis interpellée par le nom de Jésus. Alors, Emmanuel, comme tu as dit, qui veut dire « Dieu avec nous », et puis Jésus, Yeshua, qui veut dire « Dieu sauve ». Jésus incarne le Dieu sauveur qui veut vivre avec ses enfants et se tenir à nos côtés. Et c'est ce que nous rappelle ce premier chant que nous allons écouter pour cette chronique « Louange en musique ». Il s'intitule « Emmanuel du groupe Glorious, et il dit notamment « Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, voici l'heure éternelle. Écoute seulement. »
Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel,
Joie dans le monde, le Sauveur est né par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner la vie. Alors je t'invite à te plonger dans le chant suivant, te laisser entraîner par la mélodie et pourquoi pas chanter avec le groupe Église Nouvelle Vie, né pour nous donner la vie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce mois de décembre, là où on commence les festivités de Noël. Et c'est le mois où on célèbre la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors on va chanter ensemble, on va proclamer joie dans le monde. Le Sauveur est né, il est né pour nous donner la vie. Chantons ensemble.
Aucune couronne, ni proclamation, pas même un lieu.
Eh ben, ça donne la pêche, hein. Eh oui, Jésus qui vient sur terre, n'est-ce pas une merveilleuse nouvelle ? Gloire à Dieu d'avoir envoyé Jésus sur terre. Jésus est venu pour nous relever, pour nous sauver. Jésus a pris nos fardeaux et il est venu nous racheter, nous libérer. Est-ce que tu le crois ? L'acceptes-tu dans ta vie ? Acceptes-tu qu'il te sauve ? Veux-tu chanter ton Sauveur? Veux-tu lui rendre gloire?
Tu vins du ciel pour moi, Jésus le roi des rois, venu me relever, venu pour me
chronique Dieu agit, j'ai eu le plaisir de rencontrer Karen, qui a accepté de nous partager un témoignage très touchant autour de la naissance de sa fille Zia. Je te laisse écouter. Alors Karen, il me semble qu'il y a 4 ans, il s'est passé quelque chose qui vous a chamboulé, toi et ton chéri. Est-ce que tu pourrais nous raconter?
Alors, effectivement, il y a 4 ans, en janvier 2021, je me retrouvais enceinte.
Oui.
Après deux années et demie de mariage, et après une grossesse qui s'est très bien passée, en octobre, le 15 octobre, je me suis retrouvée à la clinique pour accoucher. Et puis après 14 longues, très longues heures de travail, on a donné naissance, tous les deux, à notre petite fille qui s'appelle Zia.
Et il me semble que ça ne s'est pas exactement passé comme vous pensiez.
Alors effectivement, l'accouchement a été très long, mais il s'est bien passé. Et c'est par la suite que ça s'est compliqué. Parce que Zia est née toute bleue et avec de gros problèmes respiratoires. On l'entendait très très faiblement et les infirmières et les médecins qui étaient présents ont été très vite inquiets. Donc au point de faire venir une spécialiste en néonatologie pour s'occuper d'elle.
Et qu'est-ce qui lui arrivait du coup ?
Alors on a su après des examens poussés qu'elle avait des poumons qui étaient abîmés, qui saignaient. Et on pensait au départ que les saignements étaient provoqués par le sang qu'elle aurait pu ingurgiter pendant l'accouchement, mais ça n'était pas ça. Et puis, ne sachant pas d'où provenaient ces saignements, il n'avait d'autre choix que de traiter symptomatiquement, d'arrêter chaque saignement qui commençait. Et on nous a très vite dit que la nuit allait être très très longue et que surtout la nuit allait être décisive pour elle parce qu'elle pouvait partir à tout instant.
Comment tu réagis, toi, face à tout ça ?
Alors, moi, au-delà de la fatigue, parce que les heures de travail, c'est pas rien. Hein. Et puis, la fatigue émotionnelle aussi, hein, parce qu'il faut encaisser cela. C'était très compliqué. Un peu d'incompréhension, mais aussi beaucoup de relationnel avec Dieu, beaucoup de prières. Pas forcément pour comprendre et pas forcément pour questionner Dieu. J'ai jamais questionné Dieu dans cette épreuve-là. Mais voilà, on a contacté tous les gens qu'on connaissait pour leur dire « Priez pour notre fille et priez Dieu qu'il puisse lui venir en aide. »
Les gens de votre église, la famille
La famille, de tous côtés. On a prié à La Réunion, à Maurice, à Madagascar. Enfin, tous les amis qui nous connaissaient l'ont porté dans la prière. Et moi-même, ma prière personnelle, qui a été extrêmement difficile à faire, mais justement, je disais, avec l'épuisement, c'est la seule que j'ai pu faire, c'était « Seigneur, c'est ton enfant, c'est ta fille, avant d'être la mienne. Donc, voilà, que ta volonté soit faite. Si tu dois la guérir, guéris-la, parce que tu peux le faire. Si ta volonté, c'est de la reprendre, reprends-la, mais ne me laisse pas dans l'incompréhension, ne me laisse pas... me questionner et surtout faiblir ma foi par rapport à cela. Et puis je me suis endormie.
Incroyable.
Contrairement à mon mari, qui lui n'a pas fermé l'œil de la nuit, je me suis endormie et j'ai su par la suite que la nuit avait été très très difficile pour elle, qu'elle s'était beaucoup battue. D'ailleurs, on m'a amenée pour lui dire au revoir à un moment donné.
Comment elle s'appelle, ta fille ?
Elle s'appelle Zia Nassia. Et Nassia, parce que le lendemain matin, quand la pédiatre est venue nous voir dans notre chambre, on lisait l'incompréhension sur son regard. Enfin, dans ses yeux, on voyait qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé pendant la nuit parce que Zia était encore là.
Parce que du coup, tu disais que pendant la nuit, ta fille, elle a lutté quoi ?
Elle a lutté parce qu'on a appris par la suite, alors ce que Nevin, lui, a vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que je dormais, que... on avait dû lui mettre de l'adrénaline à plusieurs reprises parce que son cœur lâchait. Et Nevin, lui, entendait chaque fois que l'appareil s'arrêtait, qu'il fallait la relancer, etc. Moi, je l'ai su que quand on est sorti de la clinique, que la pédiatre me disait, voilà, il faut tout savoir maintenant.
Donc elle a vraiment failli mourir, ta fille,
voilà.
En fait.
Et pas qu'une fois. Et donc, c'est vrai que le combat a été rude, difficile, mais... quand elle est venue nous voir le lendemain matin, nous, on savait pourquoi elle était encore en vie. On savait grâce à qui elle était encore en vie. C'était pas gagné. Il y avait encore pas mal de protocoles à mettre en place, mais le plus dur était fait. Il fallait qu'elle apprenne à respirer par elle-même, à manger par elle-même, etc. Mais c'est des choses qu'elle a appris à faire pendant les 15 jours où elle est restée en néonat et en incubateur. Mais quand j'ai quitté la clinique, la pédiatre m'a dit « Voilà, vous rentrez chez vous avec un bébé normal. Il n'a plus aucun problème. » Et gloire à Dieu.
Et il me semble d'ailleurs, là tu m'as dit qu'elle avait deux prénoms, il me semble qu'à la base vous aviez choisi qu'un seul.
À la base, on avait choisi Zia, que Nevin avait choisi de la racine hébreu, auquel il avait rajouté un H. Et ça signifie trembler devant Dieu. Alors, on ne savait pas que c'est elle qui allait nous faire trembler à ce moment-là. Mais c'est vrai que la pédiatre elle-même, qui n'était pas chrétienne, à la suite de ce qu'elle a vécu, nous a fortement encouragés à lui donner le prénom de Miracle. Et Nevin a cherché, donc, et on a trouvé en hébreu Nassia. Et donc, elle s'appelle Zia Nassia, pour porter dans son nom, voilà, son histoire, dès sa naissance, jusqu'à ce qu'elle puisse la raconter par elle-même.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux transmettre à ta fille, justement, suite à cette expérience que vous avez vécue ?
Alors, mon plus grand souhait pour Zia, c'est que vraiment, elle apprenne, et on essaye vraiment de le faire au quotidien, qu'elle apprenne à connaître Dieu, à faire confiance à celui qui lui a sauvé la vie déjà, qui lui avait donné la vie au départ, qui lui a sauvé la vie une première fois à sa naissance, et qu'elle puisse un jour le choisir comme son sauveur personnel, qui lui sauve la vie et lui donne la vie éternelle, tout simplement. Et voilà, apprendre à cheminer avec lui et à placer son entière confiance en lui. C'est mon souhait pour elle.
Amen. Voilà, tu nous as résumé une histoire incroyable en même pas 7 minutes. Mais je sais que tu as témoigné plusieurs fois, notamment à Collonges-sous-Salève. Il y a un témoignage plus long, si on veut aller l'écouter.
Le témoignage s'intitule « Il était là dans le feu avec nous sur sabbat en famille ». Voilà.
Ok. Ben, en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé cette histoire que je trouve incroyable. Mmh. Et gloire à Dieu.
Et gloire à Dieu, effectivement.
Car un enfant nous est né, c'est le titre qui m'a été imposé. Merci Amandine, tu as rappelé aux auditeurs que c'est Dominique qui devait être à ma place et il a eu un problème personnel. Et donc tu as dit 5 jours avant, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Oui.
Car un enfant nous est né. Voilà, qu'est-ce que moi, automatiquement, je pense quand j'entends ça ? Alors d'abord, je suis pasteur, je l'ai dit tout à l'heure. En toute humilité, je me considère comme un bibliste, c'est-à-dire que je vais toujours revenir à la Bible. Et là, il se trouve que ce titre, c'est un passage de la Bible. Tu parlais du livre d'Ésaïe, chapitre 7, tout à l'heure. Là, on est un petit peu après, c'est le chapitre 9. Alors, je vous lis le verset entier, parce qu'en plus, c'est indissociable, les deux parties. C'est chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Alors ça, c'est un peu apparu dans les différents chants qui ont été entendus dans ce culte. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et je vais vous partager juste ma première réaction. Donc déjà, quand j'ai entendu le titre de la méditation, puisque moi, je connaissais le verset entier, j'ai dit, ah d'accord, eh bien, non merci en fait. Non merci.
voilà. Pourquoi ça ?
Pourquoi ça ? C'est pour ça que tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai dit plaisanter, mais c'est un peu la même chose. que mes filles étaient parties de la maison. Elles ont maintenant 24 et 22 ans. Et on a déménagé en Haute-Savoie et on se retrouve avec Marie-Pierre, mon épouse, seule tous les deux. Ça nous est pas arrivé depuis 25 ans. Et donc, qu'on me dise « un fils vous est donné », je dis « non, ça, j'ai déjà donné.
» C'est bon.
Ça me va très bien. Donc, pas la peine. En fait, en plus, c'est même encore plus compliqué que ça. Parce que si... et là, je suis sensible à ça, on respecte un peu donc ce que nous dit le texte biblique. Je vais vous lire tout le verset. Vous allez voir que ça complique les choses, en fait. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule. On l'appellera du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de la paix. » Donc quand je vous disais que c'était plus compliqué, c'est qu'on ne vous donne pas juste un enfant. On vous donne un Dieu héros, un Père éternel, un Prince. Pas complet, 5 en 1, j'ai compté, 5 en 1. Alors bien évidemment, c'est pas d'être plus sérieux, mais on accueille ces beaux témoignages comme Karen. Je me rappelle de la naissance de mes filles, c'est juste extraordinaire. Je pense que, enfin en tout cas personnellement, il n'y a pas de choses plus belles que celle-là, bien évidemment. Donc je voulais introduire comme ça, parce qu'en même temps, voilà, c'est juste nous interpeller, qu'est-ce que ça veut dire. Et comment vous l'accueillez, vous, un fils vous est donné, ok, d'accord, vous en faites quoi? J'ai entendu les chants aussi, je pourrais revenir un peu là-dessus. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure le début du premier chant, « Joie sur la terre ». Ou dans le deuxième chant, enfin en tout cas le dernier je crois qu'on a entendu, « Un sauveur nous est né », tout ça. Donc ça, c'est très anachronique. Quand Jésus naît, ça ne se passe pas du tout comme ça. Absolument pas.
C'est a posteriori finalement.
Oui, mais carrément. Il faut vraiment attendre. C'est pas quelques jours, quelques semaines, c'est quelques dizaines d'années.
Bien sûr.
Quelques dizaines d'années avant qu'on arrive à dire « Ah là là !» Et c'est ça, en fait, que j'aimerais un peu voir avec vous. C'est-à-dire que, au début, ce fils donné, on sait pas quoi en faire, en fait. On n'a pas compris. Alors, c'est un passage du Premier Testament, de la Bible hébraïque. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les Juifs, hein, puisque c'est le Premier Testament, c'est donc la Bible des Juifs, on va dire ça comme ça. Ils ont une autre interprétation que nous. Mais nous, voilà, c'est la période de Noël. Et on choisit ce passage parce que ça nous fait penser à la naissance de Jésus. Les chrétiens en général, depuis les origines, hein, relisent ce Premier Testament avec ses lunettes de chrétien. Donc je parlais de dizaines d'années, Jésus vient, il naît, il grandit, il a tout son ministère sur la terre, il meurt, il ressuscite, il apparaît aux disciples, le Nouveau Testament est écrit, avec ses lunettes de chrétien, on relit tout l'Ancien Testament et tous ces passages, qui encore aujourd'hui pour les Juifs ont une autre signification, qu'il faut respecter aussi, bien évidemment. Eh bien, pour nous, en fin de compte, on les relie donc avec cette connaissance de la venue de Jésus, le Christ. Et c'est le Messie en hébreu, Christ et Messie, c'est deux mots identiques. Voilà. Et donc, pour nous, un fils nous est donné, ça part de la naissance de Jésus. Mais, par rapport à la suite, je vous disais, ce verset 5 est un peu compliqué, je disais 5 en 1... On ne va pas rentrer dans le détail des autres noms qui sont donnés à ce fils qui est né. Mais je vais vous proposer une interprétation déjà, simplement dans cette expression « un fils nous est donné ». Eh bien, j'invite nos auditeurs à le comprendre de la façon suivante. Il nous est donné de voir un fils. En fait, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais insister dans ce partage. En fait, ce que nous dit le prophète, il vous sera donné, parce que pour nous c'est un futur, de voir un fils. Et dans ce cas-là, je vais encore changer un peu. Il vous sera donné de voir le fils. Et là, je vais mettre une majuscule au mot fils. Voilà. En fait, ce qui va être important ici, ça va être de voir ce fils vivre, de voir ce qu'il fait, comment il le fait, comment il aime, qui il aime, jusqu'où il aime. Et en fait, petit à petit, en comprenant qui est ce fils, s'interroger sur le Père. Et en fait, c'est absolument indissociable dans la révélation biblique, c'est même plus qu'indissociable, en fait, le centre, le cœur de la révélation du Fils, c'est la révélation du Père. En tout cas, dans la Bible, ça va fonctionner comme ça. Je suis bien conscient, j'allais dire dans la vraie vie, mais la Bible, c'est la vraie vie, hein, mais dans nos histoires personnelles, c'est pas toujours aussi évident. Enfin, moi, j'ai rencontré des personnes superbes, d'une gentillesse incroyable, mais dont les pères n'étaient pas forcément fréquentables. Mais en tout cas, dans la Bible, ça va vraiment être ça. C'est-à-dire que un fils vous est donné, il vous est donné de voir un fils, le fils, parce qu'à travers lui, à travers ce qu'il vit, vous allez découvrir le Père. Et c'est vraiment ça. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus est en train d'expliquer tout un tas de trucs, mais super importants. Ouais, c'est un peu de la théologie. C'est des questions d'aller, de chemin, enfin, c'est lié au salut, donc c'est vraiment très très important. Et quand je lis ce passage, j'ai vraiment l'impression que les disciples, ils n'y comprennent rien. Mais vraiment. Alors il y en a plusieurs qui vont intervenir, Thomas, et puis là c'est Philippe. Et moi je vais vous lire l'intervention de Philippe. Et voilà, je vous dis ça parce que j'ai vraiment l'impression que Philippe dit « Oh là là, stop là !» Franchement, on n'y comprend rien, alors on n'ose pas te le dire, mais ça va pas du tout. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » On n'y comprend rien. Bon, c'est Jean 14, vous pourrez aller voir un peu tout ça. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas forcément le plus simple à comprendre. Montre-nous le Père, ça nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Passage magnifique. Je vais lire un peu plus tellement c'est beau. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Mes paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui demeure en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Donc chapitre 14 de l'évangile de Jean. Si vous n'arrivez pas à croire, dit Jésus, pour le moins regardez-moi vivre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez les fruits que je porte, et dites-vous que l'arbre est super. Regardez le Fils vivre et dites-vous que le Père est génial. Et c'est vraiment ça, en fait, la révélation du Fils. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la trêve des confiseurs?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Bande de jeunes.
Confiseur, moi ça me fait penser chocolat, mais je suis peut-être complètement à côté.
Non, non, oui, ouais, c'est ça. Bonbons.
Les bonbons.
Ouais, d'accord. Bonbons, d'accord. Mmh. Alors, je ne me suis pas beaucoup fatigué, j'ai pris les premières lignes de Wikipédia. Je l'avoue. L'expression est apparue en France vers 1875 à l'occasion des vifs débats à la Chambre entre monarchistes, bonapartistes et républicains sur la future constitution de la Troisième République.
Oh là là.
Content de l'apprendre, n'est-ce pas? En décembre 1874, et là, ouvrez les guillemets.
1874, selon nos auditeurs.
Ouais, bon, ben personne n'est parfait. Je parle de moi, bien sûr. En décembre 1874.
Ou 74.
Et en plus, il faut que j'accroche le mot. D'un commun accord, tous les groupes de la Chambre jugèrent que l'époque du renouvellement de l'année était peu propice à des débats passionnés. À cette occasion, la presse satirique imagine le mot de trêve des confiseurs. Arrêtez de vous taper dessus. On va faire une trêve et les confiseurs pourront en profiter pour vendre leurs produits parce que c'est un temps tranquille, cool, et en fait, on arrête de se disputer. Donc, c'est devenu une expression, même employée dans les familles. Nous, on l'employait dans ma famille, quand les enfants se chamaillaient un peu. Écoutez, les enfants, c'est la trêve des confiseurs, allez. Hein, profitons de Noël. Alors, je vous propose, pour ces fêtes de fin d'année et de Noël, de vivre avec Dieu une trêve des confiseurs. Moi, bon, ça fait à peu près 30 ans que je marche avec Dieu, selon une expression que tout le monde peut comprendre, que j'aime beaucoup. Cette dynamique avec Dieu, ça fait à peu près 30 ans. Et je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des personnes me dire si Dieu existait, ou si Dieu était tel qu'il le dit, il n'y aurait pas toute cette souffrance, il n'y aurait pas ces guerres, il n'y aurait pas ces morts, il n'y aurait pas cette violence. Et souvent, pas toujours, heureusement, mais souvent, ce qui suit ces constats, c'est le rejet de Dieu, ou l'éloignement de Dieu. Vivons, si vous le voulez bien, avec Dieu, cette trêve des confiseurs. Laissons à Dieu la possibilité de se faire connaître comme il le voudrait. Offrons-lui cette trêve pour qu'il ait ce temps et cette possibilité de se faire connaître ou reconnaître comme il le voudrait. Et là, avec un petit peu d'orgueil, roulement de tambour, je suis très très fier de la phrase qui va suivre, qui vient de moi, bien sûr, autrement je n'en serais pas fier. Attention! Approchons-nous du Fils qui nous est donné pour recevoir le Père qui ne veut pas s'imposer. Mmh. Là, je suis assez fier de moi. Je vais la répéter. Mmh. Approchons-nous du Fils qui nous est donné pour recevoir le Père qui ne veut pas s'imposer. Même si je ne rentre pas trop dans les détails, eh bien, c'est une vraie réalité biblique. Dieu nous respecte tellement, nous aime tellement, qu'il va jusqu'à donner son Fils, mais lui ne va pas s'imposer. Et Jésus pourra dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, voilà, pendant cette trêve des confiseurs, même si on est un peu en colère contre Dieu, approchons-nous du Fils. Je voudrais juste faire un petit témoignage qui n'était pas prévu par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que je suis vraiment pénible avec les mots et sur ce retour vers Dieu.
Bien sûr.
Alors, très petit court témoignage. L'année dernière, j'ai eu le privilège de baptiser une dame qui avait 92 ans.
Incroyable.
Pour l'instant, c'est mon record personnel. Wow. Mais j'y suis pour rien, bien évidemment. Et cette personne me dit avec beaucoup de tristesse qu'elle a passé sa vie à s'éloigner de Dieu. Disons, mais pour les besoins de la cause, que vers l'âge de 12 ans, c'est jeune, mais voilà, elle a déjà conscience de Dieu et qu'elle commence à s'éloigner. Je dis 12 ans parce qu'elle en a 92, donc ça fait 80 ans à s'éloigner de Dieu. Et dans son témoignage, quand on se rend compte avant le baptême, elle me parle de son expérience avec Dieu, elle me dit un truc super, elle me dit voilà, en fait, un jour j'ai prié Dieu, Dieu m'a répondu tout de suite. Et là, je lui ai dit, mais Dieu, il a une super oui, enfin, il est pas sourd, quoi. Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que t'as quand même passé 80 ans à t'éloigner de lui, c'est ce que tu m'as dit. Et lui, il n'a pas bougé de place, et du coup, 80 ans d'éloignement, et tu pries, il entend. Ou alors, Dieu t'a suivi pendant 80 ans. C'est-à-dire que toi, tu t'es éloigné pendant 80 ans, mais lui, il marchait derrière toi, il attendait juste que tu le pries. Ce retour à Dieu, je pense qu'on n'a pas retourné très loin, quoi. Il est toujours là, en fait. Et je pense que c'est bien sûr une image, j'ai bien compris. Ce retour à Dieu, c'est juste revenir à lui. Mais il est toujours là, on n'a pas vraiment beaucoup de déplacements à faire.
C'est une de ses promesses d'ailleurs, qu'il est toujours là.
C'est ça, je suis avec vous tous les jours. Je finis avec...
Emmanuel, Dieu avec nous.
C'est ça, oui. Mais c'est ça, il est là, quoi. Il est là. Je voudrais finir avec un magnifique passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le verset 19 du chapitre 5. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Un fils nous est donné, ce fils, nous dit la Bible, est le fils éternel qui est de toute éternité dans la gloire du Père. Et c'est ce que Jésus a accepté de perdre pour venir, perdre la gloire du Père, juste pour que nous, on puisse rencontrer ce Père. Combien d'entre nous, d'entre nos auditeurs, ont de très bonnes raisons d'en vouloir à ce Père, jusqu'à nier son existence, jusqu'à lui dénier le droit d'exister même. Et je suis vraiment sincère en disant que je comprends tout à fait cette attitude, cette position, cette posture. Mais c'est la trêve des confiseurs, c'est Noël, nous fêtons la fête de la naissance du Fils. Approchons-nous du Fils qui nous est donné pour recevoir ce Père qui ne veut pas s'imposer. Que Dieu nous bénisse tous.
Amen.
Amen.
Un enfant nous est né, c'était le titre de ton partage que nous avons venons d'écouter. Et j'aimerais que nous puissions réagir à chaud là sur ce que tu viens de nous partager. Alors Brian, si tu devais ressortir une idée, une phrase de ce partage, ce serait quoi et pourquoi ?
Alors déjà, merci pour ton message. Je sais pas si... tu étais sûrement très inspiré, clairement. Je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai fait dans le moment de louange... J'ai dit, Jésus est venu nous révéler, et puis je me suis repris, j'ai dit, est venu nous relever.
Ouais.
Et en fait, j'étais à deux doigts de dire, Jésus est venu nous révéler le Père, et voilà, par rapport à ce que tu nous
Amen.
As dit, je te remercie. Et je trouvais aussi intéressant l'accent que tu as mis sur le fait que Jésus est venu sur terre, non pas pour... Il n'est pas venu s'imposer. Voilà, j'aime bien cette idée. Les disciples, quand ils ont vu Jésus, moi, je me mets toujours à la place des disciples. Ils ont vu Jésus. C'est quand on pense vraiment ce qui se passe, ils leur ont parlé et tout. Et je trouve ça juste incroyable comment Jésus est venu sur terre. Il s'est mis à notre niveau. Il s'est même mis en dessous. Il s'est mis pour nous servir, pour qu'on puisse, pour qu'il montre son amour. Et voilà, je trouve ça vraiment incroyable de la part de Dieu.
Moi, j'avoue que ça m'a interpellé, enfin, ça m'a fait réfléchir, ça a résonné chez moi sur ce Dieu amour qui est tellement mal compris et tellement mal vu dans notre société. On voit un père fautard, quoi, hein, un Dieu... voilà, et souvent, d'ailleurs, le Dieu de l'Ancien Testament, du coup, on le rejette, et du coup, on rejette tout en bloc, en disant, voilà, ce Dieu-là qui tue et qui se venge, et on comprend pas... Et moi, ça me fait tellement de la peine parce que justement, Dieu est tellement... Je comprends hein, c'est cette vision-là, mais justement, on a tellement à découvrir de ce Dieu qui nous aime tellement qu'il est prêt à s'incarner sur Terre, à mourir pour nous et à nous offrir la vie éternelle sans s'imposer. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti en ligne de fond de ton message, qui, moi, me touche beaucoup, m'interpelle beaucoup.
Quand les gens me disent, voilà, Dieu n'existe pas, regarde les guerres, les famines, tout ça. Je dis d'accord, tu as raison, Dieu n'existe pas. Je dis par contre, les guerres existent. Et ils me disent, bah oui, justement. Je dis donc, si les guerres existent et Dieu n'existe pas, c'est pas de sa faute puisqu'il n'existe pas. Et donc, on vient de prouver que les guerres existent sans Dieu.
Tout à fait.
Et à partir de là, je leur dis, est-ce que maintenant on peut essayer de remettre Dieu dans le jeu ? Mais bon, dans ce genre de court partage, la frustration, c'est qu'on voudrait partager plein de textes bibliques parce qu'il y a plein de perles, de trésors. J'en ai choisi deux. Mais surtout, celui qui m'a vu a vu le Père. Et peut-être l'encouragement, il est vraiment là. C'est pour ça que je parle de la trêve des confiseurs. Ok, je comprends tout à fait, toi aussi, tu viens de le dire. C'est pas possible. Mais on peut laisser un temps à Dieu. Donc allons vers le Fils, voyons comment Jésus, lire les évangiles dans le Nouveau Testament, comment Jésus a vécu. Et Jésus dit, celui qui me voit vivre, voit le Père, en fait. Et c'est ça, Dieu. Et petit à petit, on comprendra, en fait.
Mais de toute façon, il y a un mystère autour de Dieu. Et même nous qui aimons profondément le Père, on ne comprend pas tout.
Et il y a un lâcher prise à avoir sur cette réalité-là aussi. Mais justement, Dieu, je trouve qu'il a cette bonté-là de se dire, moi, je suis complètement au-dessus de votre compréhension, mais je vais me rapprocher de vous, je vais envoyer mon fils. Et comme ça, vous allez pouvoir, avec la limite de votre intelligence et sagesse, pouvoir toucher du doigt qui je suis. Mmh. Et justement, oui, j'ai la curiosité de me dire, bon, bah alors, faut que j'aille voir qui c'est. Faut que j'aille comprendre qui c'est, ce Jésus.
Et si je peux me permettre de faire de la pub pour la semaine prochaine, en quelque sorte, ce qu'on partagera la semaine prochaine sera un peu la suite et fera écho en tout cas à notre discussion, nos réflexions d'aujourd'hui.
Ah, eh bien écoute,
j'ai vraiment hâte en tout cas.
Il faudrait y aller. Eh bien écoute, merci pour ce petit temps d'échange et nous allons poursuivre par un temps de prière maintenant. Alors j'aimerais vous proposer ici, puis à toi, auditeur, auditrice, un moment de prière en deux temps. Alors je t'invite d'abord à prendre un temps de prière personnel avec Dieu. Tu peux lui partager ce que toi, tu as retenu de ce partage biblique, ou lui confier quelque chose que tu as sur le cœur, là, maintenant, ou tu peux le remercier, ou le louer, ou juste faire silence dans la présence de Dieu. Et nous allons du coup avoir une petite instrumentale pour nous accompagner dans ce premier temps de prière. Et puis je vais inviter Pierre, qui est avec nous là aujourd'hui, à nous unir dans la prière pour conclure ce temps. Eh bien, je vous invite à prier.
Ah, Seigneur, notre bon et tendre Père, quel privilège de pouvoir t'appeler comme ça. Notre histoire avec toi, elle s'inscrit dans notre histoire humaine. C'est toi qui t'inscris dans notre histoire, c'est indissociable d'un commencement et d'une fin. Et ce que nous dit ta parole, Seigneur, celle que tu nous as donnée, c'est que notre histoire humaine arrive à une fin sur cette terre et s'ouvre sur une vie éternelle avec toi. Et nous qui te connaissons avons plaisir à dire que l'éternité ne suffira pas jour après jour à comprendre ton amour, à comprendre au regard de Jésus-Christ, de ce qu'il est venu vivre parmi nous, à comprendre cet amour manifesté dans le Fils. Et chaque jour après jour, nous nous émerveillerons un peu plus à chaque fois de mieux te connaître, de mieux te comprendre. C'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec ces guerres, cette souffrance, ces morts, ces enfants qui ne survivent pas. Et pourtant, Seigneur, pourtant tu es ce Dieu d'amour, pourtant tu es présent dans nos vies, même si nous nous éloignons de toi, tu nous suis patiemment pour être là le jour où on se tournera vers toi. Et c'est ma prière pour chacun de nos auditeurs. Si jamais il y a cet éloignement, cette révolte, qu'il puisse y avoir dans ce temps de Noël un retour, une porte ouverte, une fenêtre ouverte, Seigneur. Que les cœurs s'ouvrent, parce que tu es là et tu veux juste te révéler comme ce Dieu d'amour que tu es. Sois source pour chacun d'entre nous de paix, de réconfort, de secours, selon ta bonté et ta gloire. Seigneur, nous te remercions, nous te prions par le nom de Jésus. Amen.
Malgré le rush qu'il peut y avoir en ce moment pour les fêtes, tu ne vas pas échapper à la chronique action de la semaine.
Sans pitié.
Et pendant les jours qui viennent, je t'invite à réfléchir à une qualité que tu as, quelque chose que tu aimes bien faire et que tu trouves que tu fais bien. Tu as sûrement une qualité même si tu ne penses pas en avoir. Je crois fermement que Dieu nous a tous pourvus de qualités, de dons, de savoir-faire pour être au service de l'autre et donc pour être au service de Dieu par conséquent. Tu as peut-être le don de la cuisine, de la couture, de l'écriture, de la musique, du chant, de la danse, des langues, des technologies, du service, de la gentillesse, de l'accompagnement et j'en passe. Pour exemple, avec Amandine, on aime bien faire les cookies. On va donc en faire quelques-uns pour les offrir à nos voisins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec ce don que tu auras choisi ou simplement avec la méthode que tu voudras, fais un cadeau que tu pourras offrir à une collègue, un voisin, un élève de classe, un ami, un sans-domicile fixe qui se trouve toujours au même endroit dans la rue, la personne âgée qui se sent seule. Il y aura peut-être une discussion qui s'ensuivra, ou peut-être pas, mais que tu puisses remettre ce moment entre les mains de Dieu afin qu'il puisse te remplir de son Saint-Esprit, et tu seras peut-être surpris. Alors bon courage à toi.
Bon alors tu l'as dit brillant, on a programmé une journée de préparation de cookies, de petits sacs en tissu fait maison pour les cookies à mettre dedans et des petites cartes à offrir à nos voisins. Je le dis ici, comme ça, ça nous engage définitivement à le faire et on ne pourra plus se défiler au dernier moment. Bon, l'objectif étant qu'à travers ce petit geste, cette main tendue, ce regard, nous puissions aussi incarner l'amour de Jésus, transmettre, déborder de cet amour autour de nous en cette période de Noël. Bon courage à tous ceux et celles qui voudront relever l'action de la semaine. Soyez bénis et encouragés dans ce que vous ferez. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce culte espoir. Un grand merci à toi, auditeur, auditrice, d'avoir vécu ce temps de culte avec nous. Merci à toi, Brillant, et merci à toi, Pierre, pour vos interventions. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un deuxième temps de culte autour de Noël. Pierre, de quoi vas-tu nous parler la semaine prochaine ?
Elle est vicieuse, la question, parce que le sujet m'est imposé de la même manière que celui d'aujourd'hui. Le titre est « Le plus grand cadeau ».
Ah oui, mais moi, je me réjouis de savoir ce que tu vas faire parce que justement, tu l'as fait tien et je ne sais pas de quoi ça va parler. Donc...
En tout cas, une piste, c'est Noël, le plus grand cadeau, la naissance de Jésus, on y sera
d'aller creuser tout ça.
Suspense,
ça va être sympa.
Mais je me réjouis. Eh bien, en attendant que chacun et chacune d'entre nous soit béni, soit protégé, soit guidé par Dieu pendant toute cette semaine, que la douce main du Père repose sur toi et à sabbat prochain. Bye.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.